Je dis bonjour à tous les citoyens du royaume des cieux. Comment allez-vous? Ça va? Chaudement durant la semaine, le plus frais grâce à la pluie, merci Seigneur. Je salue aussi ceux qui ne se considèrent pas encore peut-être comme citoyens du royaume des cieux. Effectivement, si cette appartenance au royaume des cieux peut diviser, partager entre ceux qui y sont, ceux qui n'y sont pas, c'est vrai. Il y a ce matin une nationalité qui ne peut nous séparer, nous diviser. Il me semble que nous sommes tous dans cette salle, je pense, de la nationalité française. C'est écrit sur notre carte d'identité. D'accord ou pas d'accord? C'est écrit sur notre carte d'identité. Je regarde. Pense que tu n'es pas là, c'est lui qui veut mentir. Mais c'est bon. Entre nous tous, nous sommes tous de nationalité française. Et voilà ça, monsieur, je pense. La nation française est régie par des lois, des articles, des décrets que nous sommes tous tenus de respecter sous peine de sanction. Nous ne sommes pas hors de la loi. Et bien sachez qu'il sera de même du royaume de Dieu. Dans ce royaume des cieux, il règne un souverain, un roi, le roi des rois. Et dans son royaume, il a établi des règles. Et de la même manière qu'en France, nul n'est censé ignorer la loi. C'est ce qui est dit pour la loi française. N'espérez pas prendre une excuse le jour où malheureusement vous trouvez devant le tribunal en disant « je ne savais pas ». Ça ne marche pas dans la loi française. En France, il est dit que nul n'est censé ignorer la loi. Alors qu'en est-il de nous, citoyens du royaume des cieux? Pouvons-nous ignorer, négliger la loi de notre Dieu? Alors je pense que certains me diraient « Nicolas, il va le feu. Le royaume de Dieu, ça va venir, mais ce n'est pas encore aujourd'hui. Ce n'est pas demain, je vais t'en occuper de ça. » Je pense que tous ceux qui, comme moi, ont suivi ces quatre déjà prédications sur le serment sur la montagne ont compris que certes, le royaume de Dieu, c'est pour bientôt, mais le royaume de Dieu, c'est aussi maintenant. Notre pasteur nous l'a plusieurs fois répété. Le royaume de Dieu, c'est Dieu qui règne non seulement aux cieux, mais c'est Dieu qui règne sur son peuple, sur nous, en ce moment même. Et enfin, c'est Dieu qui règne sur toute la terre. Être citoyen du royaume de Dieu, c'est accepter le gouvernement de Dieu sur notre vie. Il a autorité sur notre vie. Alors, dans ce bilan de santé, puisque c'est comme ça que notre pasteur nous l'a présenté, Jésus nous définit les contours de l'authentique chrétien. Il fait la différence claire entre le croyant et le non-croyant, le vrai chrétien et le pseudo-disciple. Alors ce sera le thème de mon message ce matin. Car oui, nous ne sommes pas censés ignorer la loi du royaume de Dieu. Et cette loi, nous allons apprendre à la connaître à travers un passage, toujours dans le sermon sur la montagne. Je vous invite à lire avec moi le passage de Matthieu 5. Et nous allons faire la lecture du verset 17 jusqu'au verset 20. Matthieu 5, verset 17 à 20. Matthieu 5, 17 à 20. Il nous est dit ceci. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. En Jésus, Dieu a contracté une nouvelle alliance avec nous. Nous ne sommes plus sous le régime de la loi. Nous sommes sous le régime de la grâce. C'est une vérité absolue. Et combien de chrétiens, s'appuyant sur cette vérité, en sont venus à penser qu'ils n'ont plus, ils n'ont plus à se soucier de la loi. Est-ce là la réalité? Cette loi qui nous était décrite pendant tout au long de l'Ancien Testament, Dieu qui s'est fait connaître aux hommes, au monde, à travers un peuple qui s'est choisi, le peuple d'Israël, peuple qu'il a mis à part, régi par des commandements, des règles, une loi qui se laisse découvrir dans l'Ancien Testament. Alors pendant cette période, des prophètes avaient annoncé la venue du Messie, l'envoyé de Dieu. Le prophète Jérémie disait, en Jérémie 31, verset 31, ceci. Il leur disait, « Mais des jours viennent, déclare l'Éternel, où moi je conclurai avec le peuple d'Israël et celui de Juda une alliance nouvelle. » Alors, s'appuyant sur cette promesse, le peuple hébreu a attendu patiemment ce Messie, avec dans l'idée, le rêve que ce Messie viendrait les délivrer de l'occupation romaine, avec dans l'esprit que ce Messie viendrait opérer des changements radicaux dans leur façon de vivre, avec de nouvelles règles, des règles plus souples. Et encore aujourd'hui, plus de 2000 ans après la venue de Christ, certains croyants pensent aussi qu'étant au bénéfice de la grâce, ils peuvent adapter cette loi qui peut paraître dépassée, démodée, sans valeur, parce qu'ils sont bénéfices de la grâce. Certains sont convaincus que nous sommes appelés à adapter la loi à notre vie actuelle. On en arrive des fois à réfléchir face à une situation. C'est vrai que la parole dit ceci, mais dans telle situation, tu peux adapter, tu peux faire attention. Selon les circonstances, on peut changer un petit peu la loi. Le Seigneur va accepter. Sans s'en rendre compte, on prend le risque d'affaiblir notre propre Église. Sans s'en rendre compte, on prend le risque de rabaisser le niveau moral et spirituel de notre vie chrétienne. Alors ce matin, voyons en fait ce que en dit notre Seigneur Jésus. Au verset 17, il nous dit ceci, afin de nous ouvrir les yeux. Ne pensez pas que je sois venu supprimer la loi de Moïse et l'enseignement des prophètes. Je ne suis pas venu pour les supprimer, mais pour leur donner tout leur sens. Dans d'autres versions, pour l'accomplir. Alors, qu'est-ce que cela signifie? En quoi Jésus a-t-il accompli la loi? Jésus a d'abord accompli la loi à travers son enseignement. Contrairement aux scribes, les docteurs de la loi, les pharisiens, eux qui étaient appelés à étudier la loi, et qui pourtant se sont éloignés petit à petit. Jésus a respecté à la lettre les Écritures. Sans cesse, il s'appuyait sur les Écritures. Sans cesse, il citait les Écritures. Il allait même plus loin. Il était en mesure d'en exposer chaque implication, d'en présenter chaque application approfondie, de mettre l'accent sur ce qui était important, de mettre l'accent sur les motivations intérieures. La Bible nous dit que ceux qui l'écoutaient étaient frappés, marqués par son enseignement. Il ne s'est pas arrêté à juste parler des Écritures. Jésus est allé jusqu'à accomplir ces Écritures dans sa façon de vivre, dans ses œuvres. En effet, il nous est dit ceci en Jean 4, verset 34. C'est Jésus qui a déclaré que sa préoccupation première était d'accomplir la volonté de son Père et la mission qui lui avait été confiée. Jean chapitre 4, verset 34. Jésus a opéré une obéissance totale aux Écritures, obéissance totale à Dieu, son Père, le roi du royaume des cieux. Il est allé à obéir jusqu'au bout, jusqu'à la mort, puisqu'il s'est laissé clouer à la croix. Alors si Jésus, notre Seigneur, si lui, il a accompli la loi jusqu'au bout, n'est-il pas étonnant que certains de ceux qui se présentent comme des disciples, encore aujourd'hui, essayent d'adapter la loi, essayent de s'en soustraire? Est-ce que le disciple est appelé à faire autrement que son maître? Un choix s'impose à chacun d'entre nous. Il n'est pas possible de croire en Jésus et de ne pas croire aux Écritures. On ne peut pas considérer Jésus comme étant le Fils de Dieu, celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Et soutenir qu'une partie de l'Écriture n'est pas vraiment la vérité, ce n'est pas possible. Il faut être clair. Où nous croyons Jésus, où nous croyons pas vraiment. Un deuxième point sur cette loi, c'est son authenticité. Jésus déclare au verset 18, « Aussi longtemps que le ciel et la terre dureront, ni la plus petite lettre, ni le plus petit détail ne seront supprimés de la loi, et cela jusqu'à la fin de toutes choses. » C'est peut-être la question. Qu'est-ce qu'un livre de plus de 2000 ans peut bien apporter? Aux yeux de Jésus, l'autorité des Écritures n'est pas juste relative. Ce n'est pas juste une partie. Cette vérité est absolue. Ce qui est écrit est parole de Dieu. Ce n'est pas révocable. Ce n'est pas discutable. Ce n'est pas négociable. Durant sa vie, on considère que Jésus a fait 64 fois référence à l'Ancien Testament. Si elle était truffée de mensonges, est-ce que Jésus, chemin, vérité, vie, aurait fait référence à cette loi, à l'Ancien Testament? L'autorité qui a conduit l'élaboration de ces Écritures, ce n'est pas juste quelques idées que nous sommes appelés à prendre. Non. Jésus nous dit que la moindre petite lettre, le moindre mot, l'intégralité du texte est inspirée de Dieu. N'est-ce pas cela que Paul a confirmé lorsqu'il a écrit à Timothée que toute l'écriture est inspirée de Dieu? De Timothée, chapitre 3, verset 16. Alors oui, aussi longtemps que le ciel et la terre dureront, la Bible est restera la parole de Dieu. Elle est la parole éternelle parce qu'elle vient du Dieu éternel. Elle restera toujours vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants qui juge nos dispositions et les pensées de nos cœurs. Hébreux chapitre 4, verset 12. Alors les lois quand même de Dieu ne sont pas comparables aux lois humaines. En France, comme partout ailleurs, les lois se font, se défont. Elles sont en perpétuel ajustement, correction, adaptation. Il y en a tellement. Je n'ai pas compté. J'ai cherché sur un site. À ce qui paraît, il y a plus de 400 000 noms, 11 500 lois, 320 000 articles, 130 000 décrets. Ça en fait beaucoup. On était en 1966 qu'un futur président que vous connaissez, Georges Pompidou, disait à un autre futur président, Jacques Chirac, vous savez ce qu'il disait? Arrêtez donc d'emmerder les Français. Je cite, mais c'est pas moi. Excusez-moi, c'est ce qu'il a dit. Il y a trop de lois, trop de textes, trop de règlements dans ce pays. On en crève. C'est un président qui le dit. Il y a tellement de lois, en France, ils sont dépassés. Et on voit des lois complètement farfelues. Quelques exemples. Vous savez qu'à Boulay, je ne sais pas où ça se situe, il y a un décret qui interdit aux moustiques de séjourner. Alors si ça, ça marche, j'en parle aux maires de Trinité, aux moustiques. Ils ont interdit aux moustiques de séjourner à Boulay. Une loi qui a eu comme ça. Naturellement. Mieux encore, à ça je trouve ça pas mal aussi. Il est interdit de promener sur la plage de Grandville son éléphant. Et on précise avec ou sans laisse. Interdit. Et le meilleur pour la fin. Pour vous montrer que vous êtes tous hors la loi. Désolé, pas venir vous arrêter. Il y a une loi toujours en vigueur qui impose à tout citoyen d'avoir une botte de foin à la maison. Tout cela là. Je me laisse. Et vous savez pourquoi? C'est au cas où le roi passerait par là et aurait besoin de nourrir son cheval. Achetez du foin, mettez chez vous du foin à la maison, au cas où le roi passe avec son cheval. Tant de lois, des plus farfelues, et ils ne pensent même pas à corriger certaines. Enfin quoi, non, ils sont en train d'essayer de les corriger tous. Je ne sais pas totalement. Mais vous voyez la différence entre la loi humaine et la loi de notre Seigneur Dieu. L'apôtre Paul le rappelle, la loi, elle, elle est sainte, juste, bonne. En Romains chapitre 7, verset 12. Elle est la parole du Dieu Saint, inspirée par le Dieu éternel, parfait, qui lui ne change pas. Sa parole, elle, n'a pas besoin d'être réajustée. Elle est vérité, elle est parfaite. Jésus, dans ce passage, nous rappelle aussi l'importance de chaque article de la loi. Au verset 19, il nous dit ceci. C'est pourquoi celui qui écarte même le plus petit des commandements et enseigne aux hommes à faire de même sera le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui l'applique et enseigne aux autres à faire de même sera grand dans le royaume des cieux. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Et comment c'est pourquoi? C'est parce que la parole de Dieu prédomine sur toutes choses. C'est parce que la parole de Dieu, elle est vérité. C'est parce que la parole de Dieu, elle est éternelle que nous devons comprendre que sa loi n'est pas juste une suite de commandements pour vous pousser à réfléchir. Non, il n'y a pas à réfléchir. Les commandements sont des exigences à satisfaire. Il n'y a pas à se poser la question, est-ce que je dois? Oui, c'est un commandement. Alors si un chrétien se met à négliger la parole, à l'adapter, à la modeler à sa guise, il ne peut pas être appelé disciple de Christ. Puisque Christ lui-même, son maître, a refusé de le faire. Alors ce matin, je risque peut-être de déstabiliser certains, mais même peut-être de me fâcher avec eux, j'espère que non, quand même, pardonnez-moi. Certains pourraient ne pas être d'accord avec moi si je leur dis que oui. Il y a des commandements qui sont plus importants que d'autres. Pour ma part, c'est ce que je comprends. Lorsque je lis la réponse de Jésus, lorsqu'un pharisien lui a demandé quel est le plus grand commandement de la loi, Jésus n'a pas répondu « Non, 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 tu fais erreur, tous les commandements sont importants. » Non. Il a répondu ceci en Matthieu chapitre 22, verset 37. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et il y en a un second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Donc, lorsque je lis ce passage, il me semble qu'il y a donc bien des grands commandements. Et s'il y a des grands, il y a des plus petits. Cependant, Jésus affirme que nous n'avons pu écarter même le plus petit des commandements. En endroit maîtrisé, aucun. Et je risque là encore d'offusquer à ce que je comprends. Dans le royaume des cieux, nous ne serons pas tous considérés sur le même pied d'égalité. Puisqu'il nous est dit, il y aura des petits, il y aura des grands. C'est une réalité, il ne faut pas se voiler la face. C'est écrit dans la parole, et la parole est vérité. Alors voyons ensemble les profils des plus petits et des plus grands. Ces plus petits qui sont dans le royaume. Tiens, monsieur Jacob, il est possible de désobéir à la parole par méconnaissance, par inadvertance, involontairement. Mais si on supprime une loi, volontairement, en plus, on apprend aux autres à faire de même, alors on sera sanctionné. Alors on sera compté parmi les plus petits du royaume des cieux. Et inversement, celui qui par contre observe la loi et qui enseigne aux autres à en faire autant sera parmi les plus grands. Alors ne soyez pas triste. Moi je trouve ça rassurant. Je trouve ça même magnifique. Que la place des plus grands, le Seigneur ne dit pas qu'elle est réservée aux grands prophètes, grands apôtres, grands orateurs, grands prédicateurs. Ce n'est pas ce que la parole nous dit. Ce n'est pas le contenu de l'enseignement qui est compensé. Ce n'est pas son originalité. Ce qui nous qualifie pour être parmi les plus grands, c'est notre attitude face à la parole. C'est celui qui l'observe et qui l'applique. Ce n'est pas celui qui est capable de retenir toute la Bible par cœur, de réciter tous les versets, de dire à ceux autres, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Non. Celui qui est le plus grand, c'est celui qui encourage les autres à respecter la parole et qui, bien sûr, en fait de même. Le critère, je le répète, n'est pas la connaissance, mais notre attitude face à la parole. Comment considérons-nous la parole et qu'est-ce qu'en fait qu'elle représente dans notre vie. Alors oui, c'est vrai, certains vont me répondre, oui, c'est vrai, mais je suis sauvé. Du moment que j'ai une place, c'est bon. Pourquoi je m'embêtais à savoir si je suis petit, je suis grand, c'est pas grave. Je suis dans le royaume, je suis avec Dieu, c'est bon. Excusez-moi, mais je ne suis pas convaincu que cette apparente modestie se prête à un citoyen du royaume. Je m'explique. Quand je regarde à l'exemple de Paul, qui compare sa vie spirituelle à une course, qu'est-ce qu'il en dit? En 1 Corinthiens chapitre 9, il nous dit ceci. Il est conscient que nous sommes nombreux à courir, mais très peu vont remporter le prix. Il compare cela à une course. Il ne se contente pas de savoir qu'il est dans le royaume. Il fait tout pour remporter le prix. Il cherche à avoir la meilleure place possible. En 1 Corinthiens chapitre 9, toujours il nous dit qu'il traite durement son corps. Il le maîtrise sévèrement, car il aspire à la couronne qui ne flétrira jamais. Alors n'y voyez pas de l'orgueil. Paul n'est pas orgueilleux. Paul n'est pas prétentieux. Ce n'est pas un manque d'humilité. Mais Paul est prêt à tout pour plaire à son Dieu. Il ne se contente pas du minimum. Le désir d'être parmi les plus grands peut être bon comme mauvais. Tout dépend de notre motivation pour qu'on le fait. Chez le chrétien, c'est l'amour pour son Dieu qui le pousse à faire de mieux en mieux. Qui le pousse à aller plus loin chaque jour, à chercher sans cesse à grandir spirituellement. J'aime mon Dieu et je vais faire son plaisir chaque jour en obéissant à sa parole, toute sa parole. Je termine avec le verset 20. Je vous le dis, si vous ne vivez pas selon la justice, mieux que les spécialistes de la loi et les pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Ah, ces pharisiens. Si je vous demandais de décrire les pharisiens, j'entendrais ego, orgueil, hypocrisie, toujours à critiquer, légaliste. Mais sommes-nous pas trop sévères avec eux? Savez-vous vraiment ce que c'est qu'un pharisien? Les pharisiens sont apparus à une époque très difficile. Le peuple juif subissait l'influence des Grecs. Et cela mettait en péril le judaïsme. La plupart des Juifs se laissaient séduire par les coutumes grecques. Alors certains Juifs qui étaient fidèles à la parole ont décidé de se mettre à part. D'ailleurs, le mot pharisien, justement, signifie en hébreu séparé. Ils se sont séparés du monde par un dévouement total, entier, à la parole de Dieu. Ces pharisiens cherchaient résolument à appliquer toute la loi dans le moindre détail, tous les jours. Cependant, malheureusement, à vouloir bien faire, ils n'ont pas fait attention. Et Jésus a dû critiquer leur hypocrisie. Parce que ces pharisiens, au final, accordaient plus d'importance à l'extérieur, le paraître, plutôt qu'à l'intérieur. Ils avaient mis de côté tout ce qui est justice, miséricorde, amour. Je pense que dans l'exemple des pharisiens, nous avons une leçon à retenir. Cela peut nous arriver. Nous pouvons être tellement préoccupés à obéir aux lois, l'une après l'autre, chacune, tous les jours, à en oublier ce qui fait l'essence même de ces lois, à mettre de côté l'amour que le Seigneur nous demande de manifester tous les jours. Alors, qu'on connaît ces pharisiens, qu'on connaît justement cette capacité à tout faire, respecter toutes les lois. Et sachez que dans l'Ancien Testament, il n'y a plus de 600. Et quand on voit que le Seigneur nous demande d'aller au-delà de ce que les pharisiens pouvaient faire, on peut se poser la question. Est-ce possible? Franchement, est-ce que je suis capable de faire plus que les pharisiens? Suis-je capable de respecter toute la loi? Et en se posant la question, on en vient à la conclusion. Le royaume des cieux est-il vraiment accessible? Je vous répondrai que c'est impossible. Et je vous répondrai que c'est possible. Est-ce que vous vous souvenez de la toute première béatitude et sa signification? Heureux les pauvres en esprit, car leur royaume des cieux est à eux. Pourquoi? Le pauvre en esprit ne se voile pas la face. Il se sait faible. Il se sait faible devant les attentes de son Dieu. Oui, c'est impossible pour moi. Mais parce qu'il se sait faible, le pauvre en esprit apprend à dépendre de celui qui est fort, le Tout-Puissant. À la question des disciples, ils demandèrent justement eux aussi, qui peut être sauvé? Jésus a été clair. Aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Matthieu, chapitre 19, verset 25. Dieu veut voir en nous une justice qui va au-delà de celle des scribes et des pharisiens. Une justice parfaite, une vie de sainteté. Cela n'est pas à notre portée. Soyons francs, ouvrons les yeux. Mais si Dieu se montre si exigeant, c'est parce qu'il nous a donné le moyen d'y parvenir. Le citoyen du royaume de Dieu apprend à vivre selon la loi de Dieu parce que Dieu lui a donné son Saint-Esprit. Notre Dieu a tout prévu. Il a vu notre faiblesse. Il nous a donné son Saint-Esprit. Et plus nous allons laisser le Saint-Esprit agir en nous, et plus nous allons tendre vers ce que Dieu veut voir en nous, ce qu'il veut que nous devenions un jour. Dieu se montre si exigeant parce qu'il nous a donné ce qu'il faut. Il nous a équipés pour y parvenir. Comprenons bien. Oui, Dieu est exigeant. Oui, il existe, il exige pardon, une justice qui va au-delà de nos propres forces. Cette capacité à aller au-delà des pharisiens n'est pas à notre portée. Et pour y parvenir, nous n'avons rien à faire. Nous avons juste à accepter ce qu'il nous donne, son Saint-Esprit, et laisser ce Saint-Esprit nous travailler jour après jour, matin après matin. À travers ce passage, le Seigneur nous montre à quel point sa loi est importante. Connaître cette loi est important. Citoyen français, de t'appeler à connaître la loi, afin de ne pas finir en prison. Citoyen du royaume de Dieu, vous êtes appelés à connaître la loi de votre Dieu et à ne pas la négliger, parce que cette loi est vérité absolue. Et vous retrouvez, et votre récompense vous attend. Non pas parce que vous avez conduit à l'église plus de 10-15 personnes. Non pas parce que vous êtes capable de retenir 100 versets. Non pas parce que vous avez la plus belle voix. Tout simplement, vous serez compté parmi les plus grands. Parce que vous montrez à votre Dieu que vous faites tout ce qui est à votre possible pour obéir à sa loi. Vous avez compris que ce qui importe, c'est votre attitude face à sa loi. Et non seulement vous faites tout, mais vous encouragez les autres à en faire de même. Voilà ce que Dieu appelle les plus grands dans le royaume des cieux. Que cette parole soit un encouragement pour vous. Oui, notre Dieu est saint et donc il est exigeant. Mais ce qui est difficile et impossible pour nous, ne l'est pas pour notre Dieu, ne l'est pas pour le Saint-Esprit qui habite en chacun de nous, en chacun de nous. Que soit nous, cette parole et ce Saint-Esprit. Prions. Seigneur, je veux te remercier pour ta parole. Parce que cette lampe qui est à notre pied, il n'y a pas d'erreur en elle. Elle ne peut faillir. Sa flamme ne peut s'éteindre. Elle est éternelle. Parce que tu es un Dieu éternel. Tu es un Dieu saint. Il n'y a pas de correction à apporter à ta parole. Elle est parfaite. Je te remercie parce que tu as mis à notre disposition cette parole. Lorsque nous la lisons, nous voyons tout ce que tu attends de nous. Et parce que nous sommes citoyens de ce royaume, nous apprenons à la connaître. Nous apprenons à t'obéir. Oui, Père, nous sommes conscients de notre faiblesse, de nos limites. Nous savons qu'il y a des choses qui nous sont difficiles. Nous savons que selon les circonstances, selon les situations, un commandement peut nous paraître le plus difficile à notre jour. Mais nous savons qu'avec toi, nous savons qu'en toi, nous pouvons puiser la force, la capacité d'y arriver. Et nous te remercions pour ce Saint-Esprit que tu nous as laissé, en qui nous pouvons puiser la force, les conseils, l'attitude à adopter. Afin d'être appelés parmi les plus grands, nous voulons vivre par ta parole. Nous voulons nous obliger, nous forcer à garder cette parole constamment dans notre cœur et tout faire pour l'appliquer, tout faire pour encourager les autres à l'appliquer. Nous voulons vivre à travers cette parole. Donne-nous cette capacité qu'elle ne vienne jamais aux oubliettes, qu'elle soit toujours constante dans notre cœur, que nous ne cherchons pas à l'adapter, à la modifier. Père, que tu nous apprenions à accepter tout simplement ta parole qui est sainte, qui est vérité et qui est bonne. Merci, Père, parce que dans ta perfection, tu as tout prévu. Tu nous as tout donné. Nous avons juste à accepter ce que tu nous donnes et accepter que tu nous travailles chaque jour. Merci pour ce que tu fais en chacun d'entre nous, Père.